Avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement les organisatrices ainsi que le laboratoire junior Silencio pour avoir créé ce bel espace d'échange. Dans le cadre de cette journée d'études consacrée au concept de marginalité dans l'espace ibérique et ibéro-américain, je vous propose de nous tourner vers le théâtre espagnol postérieur à la transition démocratique, un théâtre engagé vis-à-vis du passé et de la mémoire historique. Face au dénommé Pacto del Olvido, le dramaturge José Sánchez Sinisterra aspire à faire de la scène un lieu de réparation de la parole des vaincus. Cet engagement est à l'origine de Terror y Miseria en el primer franquismo, dont l'écriture s'étend de la fin des années 1970 à 2002, année où elle est mise en scène par la compagnie Teatro del Común sous la direction de l'auteur lui-même. L'œuvre se compose de 9 scènes qui retracent chronologiquement la vie quotidienne dans l'espace dévasté de l'après-guerre. Chacune d'elles aborde les expériences individuelles de personnages marginalisés et brisés par le système en place. Afin de respecter le temps qui m'est imparti, cette communication sera plus précisément consacrée à l'analyse de la deuxième scène intitulée « El sudario de Tifa ». Celle-ci présente le cours d'histoire confus d'un professeur qui vient d'être réprimandé par le directeur de son établissement pour avoir présenté une version un peu trop libérale du 19e siècle en classe. Pour éviter toute sanction, le personnage se dédie alors des opinions politiques qui pouvaient transparaître dans son dernier discours. Alors, le rappel à l'ordre du directeur, le mot « rojo », encore une fois, écrit en gros sur le tableau à son arrivée dans la classe, ainsi que la dissipation des élèves, empêche l'enseignant d'assurer convenablement son cours. Or, derrière ces difficultés pédagogiques, on devine un point de vue dissident et critique vis-à-vis de la manipulation de l'histoire nationale par le régime franquiste. L'étude de cette scène m'a semblé particulièrement adaptée à la thématique qui nous réunit aujourd'hui, car elle repose sur une tension constante entre histoire officielle et histoire marginale à travers un décalage entre la rhétorique de la dictature qui domine le monologue de ce professeur et le point de vue divergent qui s'inscrit dans les interstices du langage. Nous serons donc particulièrement attentifs aux diverses voix qui parcourent le texte. Alors, il convient ici de préciser que nous entendons le terme de voix de façon métaphorique. Il ne s'agit donc pas d'une voix au sens physique, mais d'une instance énonciative manifestant un point de vue dans le discours. En effet, un seul personnage parle dans cette scène, pourtant, au-delà de cette émission vocale unique, on entend une multiplicité de voix qui viennent parasiter le message univoque que souhaite véhiculer le locuteur. Examiner ce dédoublement énonciatif revient donc à étudier le dialogisme dans le texte dramatique. Nous nous attacherons dans un premier temps à définir le dialogisme et à examiner la superposition des voix, visibles ou latentes dans le discours de l'enseignant. Nous nous intéresserons ensuite aux effets de ce procédé sur la communication théâtrale avant de déterminer les enjeux esthétiques, mais également idéologiques et mémoriels qu'il sert. Pour commencer, on peut préciser que le niveau qui nous intéresse n'est pas celui de l'interaction entre le professeur et ses élèves, qui prend ici l'allure d'un monologue, on l'a dit, mais bien le niveau inférieur où apparaît le dialogisme. Alors, le dialogisme est un concept théorisé par Michael Bakhtin pour se référer au fonctionnement interactif de toute manifestation verbale, c'est-à-dire au fait que le discours d'un locuteur est toujours traversé par d'autres discours, antérieurs et à venir, avec lesquels il interagit sous la forme de réponses et d'anticipations. Le dialogisme part du principe que les mots nous préexistent et que les énoncés ne surgissent jamais ex nihilo. Ce concept a ensuite été exploité par la linguistique et plus précisément par la praxématique pour désigner les phénomènes de dualité énonciative. José Sánchez Sinisterra n'est pas étranger à ce dialogue interne et cet extrait de l'essai intitulé « La palabra alterada » nous en offre la preuve. Je cite « La experiencia del mundo se da en el lenguaje y este es una institución anterior y posterior a nosotros, una praxis colectiva, una república basada en consensos, suposiciones, aproximaciones y encantamientos. ¿Cómo puede un escritor escapar a este encantamiento, a esta alienación, a esta invasión de los otros en sí mismo, de la cosa pública en la cosa privada? Donc, ces pièces, on le voit avec cette citation, s'éloignent résolument des principes qui sous-tendent les dramaturgies traditionnelles, à savoir la transparence du langage et la capacité de ce langage à communiquer, au profit d'une exploration de cette altérité souvent invisible dans le langage. Pour appréhender cette dissolution de l'autre dans l'un, nous empruntons ici l'expression à Jacqueline Autier-Rébus, les linguistes opèrent généralement la distinction entre deux instances. En premier lieu, on peut évoquer l'instance du locuteur, qui est la source du discours, et instance à laquelle se rapportent les déictiques, en particulier le jeu. Et dans le texte qui nous occupe, il s'agit du personnage du professeur en tant que producteur, bien que fictionnel, c'est vrai, de l'énoncé. Et en second lieu, l'énonciateur à l'origine du point de vue. Il est celui qui assume l'énoncé. El sudario présente plusieurs énonciateurs. On y reviendra. Le dialogisme résulte ainsi d'une déliaison, d'une disjonction entre locuteur et énonciateur, et il aboutit à un emboîtement énonciatif. Seulement, l'hétérogénéité énonciative n'est pas évidente à déceler dans notre texte, car elle ne se laisse pas toujours voir, ou elle ne laisse pas toujours des marques visibles comme l'italique ou les guillemets. Le cours d'histoire de l'enseignant est sans cesse parasité par les énoncés prononcés la veille, par la version imposée par le dictateur, par le directeur, ou par une opinion discordante sans que les limites soient toujours claires. On peut donc aborder le répertoire des procédés dialogiques mobilisés dans le texte El sudario de Tifa en partant de l'explicite, lorsque les voix différentes de celles du locuteur sont visibles et audibles, vers l'implicite lorsque ces voix sont plus diffuses. Alors, le cas le plus flagrant est certainement celui des guillemets, marqueurs graphiques qui signalent que les mots ont été empruntés à un énonciateur qu'on tient à distance. Or, on observe que le discours cité n'est pas celui qui est imposé par sa hiérarchie, par le directeur. L'énonciateur vis-à-vis duquel il prend la distance ici, c'est lui-même. C'est l'énonciateur libéral, responsable du cours de la veille et qui avait évoqué sans jugement négatif des concepts qui, par ailleurs, sont condamnés par le régime. Je pense aux termes de agitación obrera, la maçonnerie, el republicanismo, etc. Il s'agit d'un énonciateur dont il se détache en le signalant comme autre par un procédé ici d'autodialogisme. Il affirme lui-même, je cite, que por cierto, del mismo modo que fue informado de mis explicaciones del último día, que no son mías, naturalmente, las opiniones que expuse en la última clase, quiero decir, estas opiniones no son, les estaba exponiendo justamente una visión de la historia errónea, distorsionada, tendenciosa, liberal, en fin. Pour se sauver, on voit bien qu'ici, le professeur plaide la distance, mais on devine une forme d'engagement sous ce désaveu contraint. On peut également citer les reformulations constantes, repérables par des marqueurs, parfois accentués par les deux points, tels que « Ochea », comme dans l'exemple « Deformar la historia de España corresponde Ochea, que la visión materialista y liberal de la historia no puede », etc. Un autre marqueur serait celui de « Es decir », comme dans l'exemple « Estamos aquí para aprender historia, historia de España, es decir, las raíces eternas del nuevo espíritu nacional », ou encore un autre type de marqueur serait celui de « quiero decir ». Ce type de dialogisme fait partie intégrante d'un discours à visée didactique. Ce type de dialogisme, dont on voit une présence excessive ici, nous indique que le professeur ne se contente pas d'anticiper les difficultés des élèves. Il prévoit également toute dérive interprétative qui pourrait causer sa perte. En précisant et en corrigeant sans arrêt son discours antérieur, il révèle ici ses propres failles. Ensuite, un autre procédé serait celui des points de suspension, qui constitue sans doute le procédé dialogique le plus frappant dans le texte. La plupart du temps, le triple point ne fait pas état d'une interruption externe du discours, une interruption par les élèves dissipés notamment. En tant que modalisateur, il signale une distanciation critique, voire ironique, par rapport à l'énoncé. Les pauses introduites par les points de suspension ouvrent la voie à l'implicite, comme si le locuteur voulait dire davantage ou autre chose que ce qu'affirme l'énonciateur auquel il cède la voix. Il fonctionne donc, en quelque sorte, comme les vestiges visibles de l'autocensure du personnage. Alors, je vous ai placé un extrait à l'écran, mais il est seulement destiné à illustrer ce cas de dialogisme. Mais en réalité, les points de suspension sont absolument partout dans ce texte. La dernière modalité de dialogisme qu'on recense est celui de l'ironie, par laquelle le locuteur prête momentanément sa voix à un énonciateur qu'il prend pour cible, comme le précise Jacques Bresse. Je cite, « Le locuteur doit faire comme si c'était bien lui l'énonciateur de l'énoncé ironique, tout en laissant entendre, du fait de la discordance, que, de fait, il n'est qu'un masque. » Toutefois, ce phénomène n'obéit pas toujours au même degré d'explicite. Au départ, le professeur feint d'adopter le point de vue d'un enseignant satisfait, mais le comportement totalement irrespectueux des élèves nous laisse entendre qu'il pense le contraire. Comme dans les exemples suivants, Bonita educación la que les dan en sus casas, ou l'expression algún valiente pour se référer à la lâcheté de l'élève qui a écrit le mot rojo sur le tableau. Ensuite, à mesure qu'elle devient plus ambiguë, sans indice clair, l'ironie devient également plus dangereuse et polémique. Nous y reviendrons à ces exemples. Le texte multiplie les marques qui révèlent une fracture entre le locuteur et les nombreux énonciateurs qu'il met en scène. À travers le dialogisme, on remarque que l'autre ou les autres conditionnent sans cesse son discours au point que celui-ci se montre fondamentalement éclaté. Mais quelles sont les conséquences et les finalités de cette dissociation énonciative constante? Le deuxième point de cette communication sur les effets dramatiques du dialogisme nous fournira certainement les premiers éléments de réponse. On peut rappeler que la communication théâtrale s'établit sur un double circuit. Le dramaturge s'adresse au public par le biais d'un échange artificiel entre les personnages. Ainsi, on peut se demander si les procédés dialogiques affectent d'une façon ou d'une autre la double énonciation théâtrale. Alors, sur le plan intrascénique, c'est-à-dire au niveau de la communication entre les personnages, tout se passe comme si el profesor, aux prises avec les voix inconciliables qui affleurent dans son discours, était incapable d'établir un dialogue avec les élèves. Le fait qu'il soit le seul à s'exprimer verbalement est déjà révélateur d'une communication à sens unique. Rappelons que les élèves se manifestent uniquement par l'intermédiaire des plaintes du professeur, mais ils ne prennent jamais la parole sur scène. L'absence de dialogue réel et la scission entre énonciateur et locuteur est symptomatique d'un échec pédagogique orchestré par le régime. La langue de bois que l'enseignant se voit contraint d'adopter, cette rhétorique politique artificielle faite de stéréotypes patriotiques, empêche la diffusion d'un savoir et l'apprentissage critique. Privé de liberté pédagogique et d'autorité, puisque ses élèves peuvent le dénoncer à tout moment, le professeur se débat avec des mots figés dans ses notes, comme on le voit à l'écran, et il montre un souci constant de clarifier ses propos, mais cet effort de l'enseignant accentue encore la scission. Par exemple, lorsqu'il reformule en revenant sur ce qu'il avait dit antérieurement, il s'interrompt presque aussitôt, ajoute de nouvelles précisions issues de la rhétorique du régime, mais il ne finit jamais ses phrases de sorte que l'explication demeure tout à fait incomplète. La reformulation contre-productive ne fait qu'exhiber l'aliénation du personnage. En somme, la rupture de la communication entre les différents actants à l'intérieur de l'Estudio de Tifa reflète les effets abrutissants de l'endoctrinement. Évidemment, l'incompréhension entre le professeur et ses élèves n'est pas sans conséquence sur le circuit extrascénique de la communication théâtrale, autrement dit, sur le rapport qui est établi avec le lecteur et le public. En effet, si l'échange entre les personnages est censé être adressé en dernier lieu au récepteur externe, l'impossibilité constante de communiquer suppose une rupture partielle du pacte traditionnellement établi avec le public, d'autant que, comme l'ont souligné de nombreux critiques à propos de cette scène, le public se trouve fictionnalisé ici sous la forme d'élèves. Mais si la scène rompt le pacte en mettant l'accent sur les défaillances du dialogue dans ce contexte dictatorial, c'est bien pour abolir la crédulité du spectateur et réaffirmer le rôle du théâtre comme lieu de pensée. Le dialogisme pourrait être rapproché, me semble-t-il, de la théâtralité mineure à laquelle aspire José Sánchez Sinisterra. L'auteur l'a défini comme une tendance soustractive par opposition à une théâtralité accumulative, car elle mise sur une réduction des moyens et un dénuement afin d'explorer la dimension allusive du langage. Le dramaturge préfère donc l'ambiguïté et l'incomplétude à l'unité et à la cohérence d'une théâtralité plus traditionnelle. Aussi, le dialogisme paraît être le recours tout indiqué pour multiplier les perspectives. En effet, sous le discours conformiste du professeur se cachent d'autres voix, et José Sánchez Sinisterra dit en ce sens « La palabra no muestra, sino que oculta. No revela lo que el personaje parece decir, sino precisamente aquello que no quisiera decir. Y en esta condensación del habla, el silencio es tan expresivo como el discurso. Les points de suspension qui inondent le texte sont tout à fait représentatifs de cette tendance dans la mesure où ils introduisent une brèche dans l'unité du personnage et suggèrent une voix censurée dans le discours sans pour autant en dévoiler le contenu verbal. Alors, au-delà de la non-adhésion suggérée du professeur au discours de propagande qu'il profère, les points de suspension démantèlent le texte, s'opposant ainsi à l'unité prônée par le régime. Ces considérations suggèrent que les transgressions du dialogisme n'obéissent pas uniquement à une finalité dramaturgique, car elles questionnent notre rapport à la mémoire et à l'histoire, c'est ce que nous allons voir à présent dans le dernier point de cette communication. Les dédoublements énonciatifs récurrents ouvrent la voie à une dimension métathéâtrale omniprésente dans la dramaturgie de Sánchez Sinisterra. En effet, les linguistes ont souvent recours à une métaphore théâtrale pour expliquer les phénomènes dialogiques, assimilant le locuteur à un acteur et l'énonciateur à un personnage. Frédéric Bravo définit l'ironie à partir de cette métaphore. Je cite « L'ironie naît d'un travestissement de la voix énonciative. Je est un autre. » et relève en cela d'une conception presque théâtrale de l'acte d'énonciation. Le locuteur affiche son désengagement à l'égard de l'énonciateur étranger qui, l'espace de quelques secondes, usurpe sa parole. Utiliser ce procédé dans une pièce revient bien à introduire du théâtre dans le théâtre, puisque le professeur se transforme en acteur contraint de jouer le rôle d'un personnage partisan de l'idéologie du régime. Au départ, le professeur multiplie les ironies par antiphrases. Il vante les mérites de ses élèves pour faire entendre le point de vue tout à fait contraire, à savoir le manque de sérieux de son public et la mauvaise éducation qu'ils ont reçue. Mais employé dans le contexte d'une dictature, ce stéréotype associé à l'enseignement acquiert un sens tout à fait idéologique. L'énonciateur louangeur est une sorte de masque complaisant que le régime lui demande d'arborer. Le fait de prendre ses élèves pour cible d'une critique implicite montre que le locuteur ne s'identifie pas à ce masque. À côté de cette ironie par antiphrase, on voit apparaître progressivement une ironie plus complexe et une ironie plus ambiguë aussi. On revient aux exemples de tout à l'heure, ce qui nous permet de repérer que le professeur n'adhère pas à cette vision de l'histoire défendue par les vainqueurs de la guerre. La rhétorique ampoulée, patriotique et manichéenne du régime est restituée dans un style haché, répétitif, contraire à toute exaltation, en définitive, une rhétorique qui est ici bien peu convaincante. On observe un décalage entre les hyperboles, comme dans « el colmo », dans l'expression « el colmo de todos los males », l'adverbe « siempre » dans l'expression « siempre envidiosa de nuestro poderío naval » ou encore les métaphores stéréotypées comme « latir » ou « brillar », et donc un décalage entre ces procédés et un contexte éducatif dégradé. Ce jeu souligne une divergence de points de vue qui permet de dénoncer la vacuité de la rhétorique officielle. En définitive, la métathéâtralité qui découle du dialogisme lève le voile sur la mascarade orchestrée par le régime et sur l'instrumentalisation de l'histoire à des fins d'endoctrinement. Émilie Lumière évoque ainsi une condamnation, je cite, de la falsification politique de l'histoire mise au service du régime en place. Le dialogisme n'aboutit à une version critique et marginale de l'histoire que si le public accepte de la déchiffrer et de s'engager. Par le biais de ce procédé soustractif, le dramaturge invite le spectateur à adopter un rôle actif dans la reconstruction ou la co-construction d'une mémoire alternative. Il permet de perturber ce spectateur consommateur, comme le nomme notre dramaturge. Pour conclure, on peut dire que le dialogisme permet de conjurer l'oubli dans la mesure où il incite le lecteur ou le spectateur à exhumer les voix censurées par le régime. Pour gloser le titre de cette scène, Sudario de Tifa, le récepteur est appelé à ôter la poussière de craie, métaphore de l'emprise funeste de discours dominants sur l'enseignement. Précisons enfin que cette démarche active encouragée par le dialogisme, bien qu'exacerbée dans El Sudario de Tiza, est présente dans l'ensemble du texte dramatique de Terror y Miseria en el primer franquismo. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Vanessa, pour cette intervention.
J'ai trouvé ça fascinant également, notamment le rôle du spectateur. Je me demandais, effectivement, si, je pense que tu l'as bien expliqué, mais ça suppose un nouveau spectateur, quelque part un spectateur qui est acteur, qui fait le va-et-vient entre ce qui est écrit, ce qui est dit, qui comble les blancs. Et voilà, je me demandais si ces pièces, elles étaient toujours représentées, s'il y avait d'autres représentations prévues ou si...
Alors, c'est une pièce qui commence à dater maintenant, hein, 2002-2003, mais je n'ai pas connaissance actuellement de représentation éventuelle de cette pièce, même si elle fait toujours partie des débats sur la mémoire maintenant démocratique, mais je pense qu'elle pourrait tout à fait être mise en scène. J'ai trouvé d'autres, parce que les images que j'ai proposées à l'écran, elles sont issues vraiment de la mise en scène proposée par l'auteur. J'ai pu trouver effectivement d'autres mises en scène sur YouTube notamment. Et concernant la question du spectateur, je crois que c'est une préoccupation essentielle de cet auteur et une préoccupation qui rejoint, puisque vraiment mes recherches elles portent plutôt sur la période d'avant, c'est-à-dire sur la période d'avant-garde. Et je crois qu'on est toujours sur cette dynamique-là, c'est-à-dire une tentative d'opposition à un spectateur qui chercherait à travers le théâtre le simple divertissement. C'est un théâtre qui cherche à être beaucoup plus profond, à rompre certains systèmes dans la société et à proposer au spectateur d'avoir vraiment un rôle actif dans le déchiffrement de tout ce qui peut se passer dans la pièce. Et l'auteur, je trouve, dans toute la théorie qu'il propose, montre vraiment cet aspect et j'avais lu un élément qui me paraissait assez intéressant par rapport à ce spectateur, c'est que l'auteur, pour lui, il disait qu'il n'aspirait pas à forcément remplir des salles gigantesques et que pour lui, sa théâtralité, qu'il appelait une théâtralidad menor ou théâtralidad sustractiva, pour lui, ce qui est important, c'est de retrouver ça dans des petites salles à taille humaine. Pour pas que le public soit noyé dans la masse et finalement se désintéresse ou prenne de la distance par rapport au spectacle parce qu'il ne se sent pas concerné, il est noyé sous la masse et là au contraire, en privilégiant des petites salles, ça favorise un nouveau lien beaucoup plus intime avec le public.
D'accord, merci beaucoup.